Depuis la nuit des temps, nous marchons, nous découvrons, nous créons, nous chantons, nous aimons et nous avançons ensemble sur les chemins de l'humanité. Inventions, sciences, littérature, poésie, art, gastronomie, calligraphie, cinéma, théâtre, politique. Depuis qu'il sait qu'il pense, l'homme a fait un bond. Un bond de géant pour aller à la conquête de son destin. Parcourez avec nous les chemins de l'humanité, chaque semaine sur Radio VM. Aziz Fares au micro. Bonjour. Les chemins de l'humanité sur Radio VM. Je reçois aujourd'hui Jean-René Roy. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Fares.
Merci d'être avec nous.
C'est un grand plaisir.
Vous êtes astrophysicien, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, les carnets d'un astrophysicien, la naissance du Big Bang, sur la science qui surprend, éclaire et dérange, astronomie et son histoire, les héritiers de Prométhée, l'influence de la science sur l'humain et son univers, et tout récemment, la Terre dans l'espace, la démesure de l'univers de la préhistoire à aujourd'hui. Tout ça, c'est fascinant. Dans votre livre, La Terre dans l'espace, la démesure de l'univers de la préhistoire à aujourd'hui, publié aux éditions Presse de l'Université Laval, on peut lire 50 siècles, c'est le temps qu'il a fallu pour comprendre non seulement que la Terre flottait dans l'espace, mais que cet espace était peuplé d'une myriade d'astres dispersés dans un quasi-vide cosmique de dimensions inimaginables. 50 siècles, ça dépasse la compréhension du lambda que je suis. Jean-René Roy, comment vous faites pour comprendre ce que représente, par exemple, 5 années-lumière ou 13 milliards d'années? Pour moi, ça ne veut rien dire.
Oui, c'est difficile, surtout que ça implique que l'information qu'on reçoit des endroits de l'univers va arriver avec un certain délai. Comme la lettre qu'on met à la poste se déplace avec la vitesse limite du service postier. Donc, l'information qui nous arrive des étoiles, surtout des galaxies très distantes, voyage à une vitesse de 300 000 km par seconde. Donc, à peu près une seconde pour faire Terre-Lune, 8 minutes pour aller au Soleil et 4 ans pour aller aux étoiles plus proches et 10 milliards d'années pour aller aux galaxies les plus lointaines qu'on peut observer avec les grands télescopes dans l'espace et au sol. Donc, ça, c'est une dimension importante à saisir, que l'information, plus elle nous parvient de loin, plus elle représente un état de l'objet ou de l'univers qui remonte dans un passé lointain. Et comment on s'habitue à ça? En fait, ça devient une seconde nature. C'est un peu comme le cuisinier s'habitue à certaines saveurs, à certaines choses et développe aussi des aptitudes que la personne qui n'est pas dans le bain de la cuisine tous les jours n'a pas du premier coup. Mais j'essaie dans tous mes ouvrages, vous en avez mentionné, de partager et surtout d'expliquer tout ce que ça représente, cette information qu'on reçoit peut-être avec un certain délai.
C'est assez abstrait pour les gens en général. Si vous dites 10 milliards d'années pour atteindre une étoile, ça représente quelque chose de précis?
Disons que je vais vous faire une analogie. Si vous allez près de chez vous, dans les montagnes, au nord de Montréal, vous allez prendre une roche au sol et cette roche-là a de l'ordre 1 à 2 milliards d'années. Vous n'en êtes pas estomaqué. Vous prenez le message, mais le géologue, le géophysicien, la géologue, la géophysicienne va pouvoir, avec le temps, vous convaincre que vous êtes en train de manipuler un objet qui est très, très ancien. Notre Terre est relativement ancienne, il ne faut pas minimiser. Il y a des étoiles autour de nous qu'on voit, comme de ce temps-ci, la belle constellation d'Orion dans le ciel. Les étoiles ont quelques millions d'années. C'est une fraction de l'âge de la Terre. Il y a des étoiles qu'on voit aujourd'hui dans la constellation d'Orion que nos ancêtres Homo sapiens n'observaient pas parce que les étoiles n'étaient pas encore nées. et considérant même la distance de 1000 années-lumière. Donc, ce jeu qui paraît non familier, mais au fond, nous-mêmes, on évolue dans une nature, surtout du point de vue géologique, qui est très ancienne. Et je donnais l'exemple du cuisinier, de la cuisine. C'est une familiarité qu'on développe avec l'expérience et qui est difficile à acquérir, en effet, en quelques minutes ou même à la lecture de quelques livres. Il faut beaucoup de temps.
Le temps a une autre dimension, un autre sens.
Exact.
Les chemins de l'humanité avec Jean-René Roy, dans cette histoire de la Terre, vous nous dites qu'autrefois, il n'y avait ni lever ni coucher de soleil. Est-ce que c'est concevable pour notre mode de pensée, sauf pour les poètes? Si on se réfère par exemple au Petit Prince, il y avait sur une planète 1001 couchers de soleil, parce qu'elle était tellement petite qu'on pouvait se déplacer. Est-ce qu'on arrive à comprendre ça?
L'exemple que vous donnez ici est extrêmement intéressant parce que c'est une découverte fondamentale dans toute l'histoire des sciences par un philosophe matérialiste grec qui a vécu autour de l'an 600 avant Jésus-Christ, Anaximandre de Milet, qui est une ville sur la côte occidentale de la Turquie actuelle. Et la première chose qu'il a réalisée, c'est que le soleil qui pour nous paraît se coucher, donc passer derrière l'horizon, et réapparaître à l'horizon est le même soleil. C'est comme l'enfant qui découvre que le chat qui passe derrière l'arbre et qui ressort de l'autre côté de l'arbre est le même chat. Donc, deux choses. Il supposait que c'était le même soleil. Il y avait beaucoup de légendes qui prônaient que le soleil mourait, disparaissait, était mangé par la nuit, réapparaissait le matin. Mais pour Anaximandre, parce qu'il voyait les mêmes choses pour les patrons d'étoiles, ce qu'on appelle des constellations, disparaître à l'horizon et réapparaître à l'autre horizon opposé le lendemain matin, il a conclu que finalement, la Terre, il y avait du vide derrière. Les objets vont tourner autour de la Terre dans sa vision géocentrique, évidemment, mais c'était fondamental parce qu'il découvrait et il proposait que la Terre, et finalement, était dans l'espace, que la Terre flottait dans l'espace. Elle n'était pas sur une grande surface d'eau, comme d'autres le proposaient. Il, finalement, inventait l'espace où la Terre flottait indépendante. Et c'est un moment clé, 600 ans avant Jésus-Christ. La Terre n'est plus l'espace, l'espace n'est plus la Terre. La Terre flotte dans l'espace. Et évidemment, les objets tournaient autour de la Terre dans sa vision. Mais c'est un moment clé de l'évolution de cette perception de l'humain par rapport à la position de la Terre, la nature de la Terre, ça va venir un peu plus tard, dans l'espace et cette finalement invention, création que la Terre flotte libre dans l'espace.
On n'en est quand même pas revenu, Jean-René Roy, parce qu'on dit toujours, le soleil se lève, le soleil se couche. Or, c'est la Terre qui tourne autour.
Absolument, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Et en fait, on continue, même nous, astronomes, à utiliser l'expression familière parce qu'on se comprend bien, tout le monde, que finalement, c'est la Terre qui tourne. Et cette perception et cette description que le Soleil se couche, la Lune se couche, les étoiles se couchent et l'inverse se lève pour le Soleil et les étoiles, finalement, c'est une description de notre perception, mais je pense que pour la plupart des gens, on réalise que la situation réelle est plus complexe et surtout beaucoup plus grande que notre perception de tous les jours nous laisse percevoir. On pense souvent que le soleil passe à l'horizon. On imagine pouvoir aller le toucher à l'horizon. Et ce n'est pas du tout le cas. Il est bien au-delà de cet horizon. Et c'est ce qu'Anaximandre, 600 ans avant Jésus-Christ, avait perçu et proposé dans sa vision qu'on peut dire révolutionnaire.
Les chemins de l'humanité avec Jean-René Roy, depuis quand les humains se sont-ils intéressés à l'espace? Comment ont-ils compris la mécanique de l'univers? Aujourd'hui encore, ça semble complexe, mais ça l'était certainement encore plus autrefois.
Oui, en fait, on comprend des choses aujourd'hui et dans quelques siècles, on pourra un peu regarder avec un regard considérant notre vision un peu naïve. Il faut être généreux avec le regard du passé Tout comme on est généreux avec l'enfant qui apprend une langue, on ne s'attend pas à ce qu'il parle comme un adulte. Donc, le grand pas après Anaximandre, je dirais, vient avec celui que vous avez bien décrit comme la mécanique d'un univers. On commence à comprendre qu'il y a une mécanique, qu'il y a une régularité. Et ça, c'est établi par les astronomes de Mésopotamie. C'était connu même avant Anaximandre qu'il y avait cette mécanique. Les choses se répétaient avec certains cycles. Le cycle le plus facile, c'est celui de la Lune qui tourne autour de la Terre en quelque chose comme 4 semaines, qui donne la notion de mois pour nous. Et ce sont les Grecs, je dirais, Eudoxe était le premier à faire un système mécanique centré sur la Terre où il plaçait les planètes sur une mécanique qui correspondait à, finalement à des sphères. Et toutes ces sphères étaient imbriquées les unes dans les autres et ils pouvaient en fait reproduire la plupart des mouvements. Donc, je dirais que cette apparition d'une notion de régularité, de structure d'un univers, elle apparaît à peu près à ce moment-là avec Eudoxe, à peu près en 300 avant Jésus-Christ. Il propose un modèle qui va être la base du modèle plus connu de Ptolémée, avec ses fameuses épicycles et tout, qui était un modèle absolument extraordinaire, qui calculait la position des astres et pouvait les prédire à plusieurs années dans le futur. Il y avait des petites erreurs, mais on pouvait toujours réajuster. En fait, on pourrait dire que même aujourd'hui, avec des super ordinateurs, on pourrait reprendre le modèle de Ptolémée et expliquer tous les mouvements qu'on observe, sauf que ça ne correspondrait pas à la réalité. La Terre n'est pas fixe. Comme on l'a répété depuis le début plusieurs fois, la Terre tourne autour d'elle-même et les astres ont aussi leur propre mouvement.
Et la Terre est ronde, et là, vous m'amenez à une question basique. Pourquoi les planètes sont-elles toutes rondes, sphériques?
En fait, à partir d'une dimension de corps de l'ordre, disons, 1000 kilomètres de diamètre. C'est la grosseur des plus gros astéroïdes. D'ailleurs, on voit des astéroïdes, cette chaîne d'objets qui orbitent entre Mars et Jupiter. Certains ont des formes allongées, même la forme de patate, etc. et tout. Mais dès qu'ils atteignent une taille de l'ordre de 1000 kilomètres, la force de gravité, la quantité de matière, fait que la matière s'écrase sur elle-même et forme une sphère. C'est la forme qui est dominante dans un champ de gravité qui est important lorsque la masse est grande. Donc, la forme sphérique est due à la gravité lorsqu'on est en présence d'une grande masse. Et c'est le cas de la Terre à 12 000 km de diamètre.
On pourrait dire que c'est un phénomène naturel.
Oui, absolument. C'est un phénomène, en fait, d'attraction gravitationnelle. Mais en même temps, ce n'est pas la seule force. À très petite échelle, la goutte d'eau va prendre une forme sphérique par d'autres forces qu'on appelle de capillarité, qui sont dues à des forces très fines électrostatiques qui agissent à ce niveau-là. Mais ce n'est pas la gravité qui donne la forme ronde à la goutte d'eau. La gravité n'opère qu'en présence de très grandes masses.
Les chemins de l'humanité avec Jean-René Roy. Dans votre livre, vous parlez de l'héliocentrisme et vous dites qu'il marque la rupture de l'univers médiéval. Est-ce que c'est ce que Freud appelait une blessure narcissique?
Oh, il faut faire attention. D'ailleurs, j'ai un collègue philosophe, historien des sciences, qui a beaucoup écrit là-dessus. Et ça revient aussi au fait de faire attention de penser que l'héliocentrisme a dégommé l'homme de sa position centrale. Et il faut faire très attention, donc, héliocentrisme par rapport à géocentrisme, c'est que la Terre n'est plus le centre. La Terre devient une planète comme les autres et tourne autour du Soleil, comme les autres étoiles sont des centres. Donc, cette hypothèse qui avait été proposée par Aristarque au 2e siècle avant Jésus-Christ est reprise par Copernic dans son ouvrage de 1543. Donc, le point auquel vous faites allusion aussi, est-ce que avec l'héliocentrisme, la position de l'homme est en quelque sorte comme minimisée? Oui, jusqu'à un certain point. Mais il faut faire attention parce que dans la vision médiévale aristotélicienne qu'on interprète mal, la Terre, c'est le milieu corruptible, impur. Les astres, c'est le milieu incorruptible, perfection. Donc, l'humain, dans le géocentrisme, était au bas de l'échelle, était proche de l'enfer et non pas dans les sphères célestes proches de l'Empyréum où habitaient les anges, entre guillemets. Et certains disent que l'arrivée, et des gens comme mon collègue auquel je faisais allusion, disent qu'au fond, le fait que l'humain ne soit plus le centre, la Terre devient un astre comme les autres, passe finalement dans le monde incorruptible. Donc, c'est comme un rehaussement du sort de l'humain et de la Terre dans l'univers. Donc, c'est une autre façon que je trouve très intéressante. Et aussi, l'autre chose, c'est de penser que l'humain est maintenant se sent recroquevillé dans une toute petite position parce que les dimensions de l'univers ont explosé. Oui, les dimensions de l'univers ont explosé, comme l'explose encore souvent aujourd'hui avec de nouvelles découvertes. Mais l'humain a toujours perçu l'univers comme étant très grand, beaucoup plus grand que l'humain. Même notre homme primitif, le Néandertal, pouvait sentir qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que soi. C'est pour ça que je parle en sous-titre la démesure de l'univers, qui veut dire l'immensité de l'univers, de la préhistoire à aujourd'hui. Chaque étape nous amène à une dimension de l'univers beaucoup plus grande. Mais à chaque étape, on a toujours réalisé que c'était beaucoup plus grand que nous. Donc, il faut faire attention avec cette notion d'anthropocentrisme, et surtout quand on veut contraster l'anthropocentrisme dans une vision géocentrique ou héliocentrique. Donc, on passe du bas monde, entre guillemets, au domaine des astres avec l'héliocentrisme. Il y a quelque chose de beau là-dedans.
La démesure nous a amenés à concevoir autre chose que des planètes, quelque chose qui nous dépasse.
La notion d'associer le ciel, parce qu'on ne comprenait pas, à une notion surnaturelle, c'est un instinct de l'humain, ça. La démarche scientifique, c'est de refuser cette approche. Anaximandre est un des premiers. Il refuse. Il dit, tout peut s'expliquer par des forces naturelles, des tremblements de terre, des orages, etc. et tout. Je n'ai pas besoin de faire appel à des forces surnaturelles. Il explique, entre autres, la foudre par la collision entre les nuages. Il dit, il n'y a plus de Zeus qui se choque au sommet de l'Olympe. La force des nuages qui rentre en collision, il y avait un modèle très simple, mais au fond, qui n'était pas fou.
Les chemins de l'humanité avec Jean-René Roy, comment les Égyptiens, les Incas, d'autres civilisations ont pu développer des connaissances sans les moyens modernes que nous connaissons aujourd'hui?
Nos anciens, nos ancêtres avaient des instruments. Et d'ailleurs, on est toujours dans la même foulée. À l'époque, c'était des choses relativement simples. C'était des instruments de mesure, comme le sextant. Donc, c'était une question de mesurer des angles. Ensuite, une dimension importante, c'est de mesurer le temps précisément pour mesurer un changement de position en angle de tant de degrés qui se faisait dans un temps qui pouvait être mesuré à l'époque avec soit le sablier, une horloge très simple, ensuite avec l'horloge à eau qui était plus précise, et surtout au 17e siècle avec le pendule qu'on a connu enfant dans la maison de nos grands-parents. Cette notion de mesure du temps était importante.
Est-ce qu'il y a quelque chose encore à découvrir, Jean-René Roy?
Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir? Bien, oui, il y aura toujours des choses à découvrir. Les frontières qu'on observe, qu'on atteint, sont toujours limitées au bassin de connaissances sur lesquels on est assis. Je vois toujours ça un peu comme on connaît tout bien jusqu'à une certaine distance cognitive explorable, entre guillemets, et au-delà, c'est un peu comme le sommet de montagne dans le brouillard. Et là, on commence à percevoir des choses. Et puis, on trouve un moyen de monter la montagne, aller dans le brouillard et souvent passer au-dessus du brouillard et découvrir d'autres horizons, d'autres portions de l'univers, d'autres phénomènes célestes.
Il faut qu'on arrive à admettre qu'il y a quelque chose à découvrir. C'est pas évident, vous savez, Jean-René Roy, on se dit, ah ben oui, il y a des étoiles, il y a des planètes, il y a des siècles, on pensait être le centre de l'univers. Aujourd'hui, on voit que l'univers se développe, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Il faut qu'on arrive à admettre que autre chose existe à part nous.
Oui, bon, à part nous, ça nous amène sur un autre terrain. Je dirais, je fais toujours une analogie avec la géométrie. Notre domaine de connaissance augmente, en fait, comme un volume, entre guillemets. Mais ce volume rouvre une frontière d'autant plus grande que le diamètre du volume, on parlait de sphère tantôt, est grand. C'est la chose extraordinaire parce que, pour moi, la chose la plus ennuyeuse qui pourrait nous arriver, c'est qu'on connaisse tout, qu'on ait tout découvert et il n'y a personne qui osera, en tout cas parmi la communauté scientifique, affirmer une telle chose. Donc, en effet, plus nos horizons s'agrandissent, plus on a une surface de volume à découvrir qui s'agrandit en conséquence.
Je reviens à cette analogie que vous avez évoquée tout à l'heure. C'est comme un enfant. Un enfant, il comprend certaines choses, et puis il grandit, il comprend mieux, et puis il grandit, il comprend mieux, jusqu'à l'infini.
Oui, mais il faut parfois revenir à notre position d'enfant. L'enfant réalise qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Trop d'adultes pensent que tout a été acquis et appris.
Je sais que je ne sais rien.
C'est une belle affirmation de savoir qu'on ne sait rien et qu'on peut savoir plus.
Jean-René Roy, merci pour ce partage, ce voyage sidéral, très rapide d'ailleurs. Merci pour ces découvertes et merci de nous faire rêver avec des concepts qui sont, il faut l'avouer, difficiles à comprendre. Je recevais Jean-René Roy, astrophysicien et auteur de nombreux ouvrages sur la science qui surprend, éclaire et dérange, la Terre dans l'espace, la démesure de l'univers de la préhistoire à aujourd'hui, astronomie et son histoire, carnet d'un astrophysicien, la naissance du Big Bang. La naissance du Big Bang, ça c'est une autre émission. Merci Jean-René Roy.
Ce fut un grand plaisir de porter ce regard presque philosophique.
C'était Les chemins de l'humanité sur Radio VM, Aziz Fares au micro.